Plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre.
Une idée originale de Aoussi Potin, montage technique et bruitage, Antoine Kouassi. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à votre espace consacré aux livres et à la lecture sur Radio de la Paix, plaisir de lire. Nous allons vous proposer d'écouter ou de réécouter, en tout cas pour les plus fidèles auditeurs de cet espace, notre lecture radiophonique du roman Les Frasques d'Ebinto de l'écrivain ivoirien Amadou Koné. Vous pourrez aussi nous partager des souvenirs ou des anecdotes en rapport avec ce roman, en nous laissant vos messages audio via WhatsApp au numéro suivant 07 77 14 23 51. 07 77 14 23 51. À présent, nous vous invitons à écouter ou à réécouter notre lecture radiophonique de ce jour qui va porter sur les chapitres 1 et 2 de la première partie du roman Les Frasques d'Ebinto d'Amadou Koné. Bonne écoute radiophonique à toutes et à tous. On était en octobre. Les pluies diluviennes s'étaient arrêtées et la bonne ville de Grand Bassam retrouvait un aspect plus gai. Le quartier France situé entre l'Atlantique et la lagune Ébrié n'était plus inondé à l'embouchure de ces deux eaux. Et ses habitants pouvaient dormir tranquilles en attendant la prochaine saison des pluies. Il avait repris son air orgueilleux de prince restauré. Du pont qui enjambait la lagune, on apercevait les vieilles maisons de style colonial aux toits couverts de tuiles et aux fenêtres vitrées, merveilleux vestiges d'une ère à la fois brillante et pénible. Le quartier France, c'était le Bassam d'autrefois, capitale de la Côte d'Ivoire, wharf très important. Ville au commerce florissant et qui connut l'opulence et la célébrité avant d'être éclipsée par les villes nouvelles de Port-Boué et d'Abidjan. À défaut d'être capitale, Bassam conservait un air dédaigneux qui caractérisait sa dignité froissée. De l'autre côté de la lagune, comme pour témoigner de la gloire passée, le vieux phare éteint dressait son fond audacieux au-dessus des quartiers impérial et Congo, qui formait la ville africaine avec des cases en briques couvertes de tôle ou des paillotes en bambou. Impérial et Congo n'étaient plus particulièrement sales. On ne voyait ni les flaques d'eau stagnantes, ni les tas d'ordures pourries au bord des rues mal bitumées. On était en octobre et le soleil, asséchant rapidement les saletés, rendait la ville plus souriante. La voiture qui m'avait transporté depuis Adiaké s'immobilisa. J'étais arrivé à Bassam. Je mis pied à terre et récupéré ma valise. La gare routière de Grand Bassam, située en plein centre de la ville, en était sans doute l'endroit le plus animé. Les chauffeurs, dans leur jargon, se querellaient ou taquinaient quelques vendeuses d'oranges. Les passagers, toujours impatients, se plaignaient dans les taxis en partance pour Abidjan, Abouasso ou Adiaké. C'était pour la plupart des élèves qui rentraient de chez leur famille pour reprendre les classes. Ils se reconnaissaient à vue d'œil, ces élèves, rien qu'à leur habit coquet et à leur démarche fière. Ils portaient des chemisettes aux couleurs vives, des pantalons souvent bleus et marchaient les mains dans les poches. J'étais de ces jeunes-là, c'est-à-dire que j'étais un élève. Pourtant, ma chemisette était gris pâle et je ne marchais pas les mains dans les poches. Ce n'était pas par souci d'originalité que je me distinguais par mes vêtements et mes manières discrètes. La simplicité était un attribut de mon caractère et peut-être venait-elle de mes origines modestes. J'étais le premier fils d'un pêcheur du village d'Akounoubi. Après moi, ma mère avait donné une fille et un autre garçonnet à mon père. Quand j'en eus l'âge, on m'inscrivit à l'école française et je me mis à travailler ardemment, peut-être parce que cela m'amusait. Je perdis mon père quelques jours avant de passer mes deux premiers examens scolaires. Cette mort me peina beaucoup. Mais je passais avec succès le certificat d'études primaires et je fus reçu à l'entrée en 6e premier du centre d'Adiaké. Malgré notre pauvreté, ma mère décida de me laisser entrer au collège. Moi, j'aurais volontiers accepté d'être un pêcheur et de sillonner la lagune Abi sur ma pirogue, lancer l'épervier pour capturer les sardines, les carpes et les brochets. J'étais donc entré au collège moderne de Grand Bassam. 3 années s'étaient déjà écoulées et je venais faire ma 4e année, c'est-à-dire la classe de 3e. Ma valise n'était pas bien lourde. Je la soulevai et me mis à marcher vers la concession de mon tuteur. Des gamins tout nus se vautraient ou s'amusaient sur le sable. Le mort, assis devant sa petite boutique, prenait son thé habituel. Dans les rues, les passants étaient peu nombreux. La circulation automobile était peu dense. Bassam en vivait dans son calme continuel, bercé par le bruit des vagues qui se brisaient sur la grève. J'arrivais enfin chez M. Draman, mon tuteur. Sa concession était pauvre. Quelques cases en bambou couvertes de papeau entouraient une petite cour sableuse où se dressait un jeune manguier près d'un puits. Les enfants de mon tuteur se ruèrent vers moi pour m'accueillir. Ils m'aimaient bien ces adorables bambins, toujours sales et toujours gais. Je leur distribuais des goyaves que j'avais cueillies au village. Je saluais les femmes assises devant la cuisine enfumée. Après avoir donné à mes tutrices les nouvelles de chez moi et appris les nouvelles de la ville, ce qui était une formalité, je regagnais ma case qui se trouvait dans la concession voisine de celle de M. Draman. Celui-ci avait une famille nombreuse et ne disposait pas d'assez de chambres. Il m'en avait donc cherché une chez l'un de ses amis. Ma case n'avait qu'une pièce unique. Je la balayai soigneusement, mis un drap propre sur ma paillasse posée à même le sol. Après quoi, je sortis mes livres et mes cahiers d'une caisse où je les avais laissés et les disposés sur ma table. Mon tabouret était toujours à sa place. J'avais mis de l'ordre partout. Je fis ma toilette et sortis pour prendre un peu d'air. Le soir tombait et les hommes rentraient du travail. Je retrouvai avec plaisir Moussa et Ousmane, les apprentis mécaniciens, Siaka, l'apprenti chauffeur. Nous habitions tous la même cour et étions des amis.
Alors, et bientôt ? Tu as bien pêché pendant ces vacances?
Est-ce qu'il sait tenir un épervier?
Dis donc, qu'est-ce que vous croyez? Je sais mieux jeter l'épervier que certains pêcheurs de mon village.
Petit prétentieux, entre nous, les blancs vous ont gâté. Pendant 9 mois, vous vous reposez tranquillement. Et quelquefois, vous osez dire que l'école est difficile.
Et tous ces jeunes gens riaient en chœur, me tapotant amicalement sur l'épaule. Cela ne m'amusait pas du tout. Leur obstination à ne pas me croire et à ironiser blessait mon amour propre. J'étais fait ainsi. Ma trop grande sensibilité faisait que la moindre chose me blessait. Je me mettais cependant rarement en colère car je savais me dominer. Quand je ne pouvais pas me faire comprendre de quelqu'un, je me taisais et je souriais. Un sourire très fin et amer accompagné d'un soupir.
Tu es en colère, Ebinto? Nous qui sommes si heureux de te revoir.
Je n'aime pas qu'on se moque de moi.
Voyons, Ebinto, tu prends tout au sérieux, toi. C'est ce qui n'est pas gai chez toi.
Je voulais rétorquer que c'était mon caractère quand une voix douce me dit
« Bonsoir, Ebin. »
Je tournai la tête. Derrière moi se tenait Monique. Elle était la fille du propriétaire de la concession où j'habitais. 3 ans plus tôt, elle était une fillette de 12 ans. Nous avions souvent joué ensemble comme un frère et une sœur. Et à vrai dire, je ne l'avais jamais regardée comme une fille que l'on puisse désirer. Mais ce jour-là, je découvris Monique dans la splendeur de ses 15 ans. Ses formes arrondies, sa voix devenue comme plus sonore, me fascinèrent. Bonsoir Monique, mon Dieu, comme tu es belle. Monique baissa les yeux et moi je ne me rendis pas compte que j'entrais dans le tourbillon qu'est la vie. L'année précédente, je n'aurais pas eu la hardiesse de faire un tel compliment à Monique. Je me rendis ensuite chez M. Draman. C'était un brave chauffeur, un vieil ami de ma famille.
Comment va ta mère?
Très bien, elle vous dit bien des choses.
Et ton frère et ta sœur?
Mon frère va bien, Ma soeur était un peu malade, mais elle se rétablit rapidement.
Alors, quelles sont les nouvelles?
Bon, on était en vacances et comme c'est demain la rentrée, je suis venu pour reprendre le travail.
Anitche, Anitche. Ici aussi, rien de mal. Depuis ton départ, on est là à se débrouiller un peu. Mais ça ne marche jamais bien. Ma voiture est vieille et il faut qu'elle passe chaque semaine au garage. Ah, mon petit Ebinto, la vie est bien difficile.
Monsieur Draman parlait. Je l'écoutais et je me disais que ma vie serait ce que je voudrais qu'elle soit. J'aimais rêver et la réalité n'avait pas une grande importance pour moi, car je pensais pouvoir un jour transformer ce qui était en ce qui n'avait jamais été. Mon tuteur, cependant, continuait à disserter.
C'est comme ça que l'autre jour, je me suis fait prendre 2000 francs pour rien. J'avais prêté ma teinture diode et mon sparadrap à un de mes amis. Et sans les récupérer, je suis parti en voyage avec des passagers. Le malheur a voulu que je crève un pneu en cours de route. Bon, je le changeais quand des gendarmes motorisés sont arrivés. Ils m'ont reproché que mes pneus étaient trop usés. Ils ont demandé à voir ma boîte de pharmacie. Hélas, il manquait du sparadrap et la teinture diode. Alors, 2000 francs tout rond, voilà. Alors qu'il y a les mécaniciens, il y a les gendarmes et les policiers. Et puis, il n'y a pas assez de voyageurs. Même quelquefois, certains refusent de monter dans mon taco parce qu'il est trop vieux et sale. Comment vivre dans ces situations? C'est comme je te dis, hein. La vie est de plus en plus dure. Carte grise, assurance, essence et tout ça, c'est de l'argent. C'est vraiment de l'argent. Quelle vie est celle de notre temps où tout est l'argent? Je me demande comment on va vivre dans 10 ans.
Ce que serait la vie dans 10 ans? Ce que serait ma vie dans 10 ans? J'y avais souvent pensé. J'étais presque certain de mener, grâce à mon travail, une vie future brillante. Pourtant, je croyais pouvoir vivre n'importe quelle vie. C'est ce que je croyais justement, être capable de vivre dignement, même dans une situation médiocre. Très tard seulement, je regagnais ma chambre et me couchais. Je ne dormis pas aussitôt, je n'avais pas sommeil, et je ne sais pourquoi les souvenirs du premier jour de mon entrée au collège affluèrent dans ma mémoire. C'était le 1er octobre 1900. De bonne heure, j'étais parti au collège situé en dehors de la ville, sur la route d'Abidjan. Sur le petit pont qu'on franchit avant d'arriver à l'établissement, j'avais trouvé 2 autres élèves dans leur complet kaki impeccablement repassé. Bonjour, ami. À quelle heure entre-t-on en classe ici? Je fus stupéfait par la réponse des 2 élèves.
Ah, tu es un taureau.
Quelle idée! Vous êtes donc des bergers?
Bon sang! Quel boustreau! Il ne comprend rien.
Qu'est-ce que je dois comprendre alors?
Tu es un nouveau?
Tu viens en 6e?
Oui.
Eh bien, mon vieux, tu es bien costaud. Qu'est-ce que tu attendais pour venir au collège?
Décidément, ces 2 garçons cherchaient à m'humilier. Et cette phrase d'Ioula me vint fort à propos à l'esprit. Ni te feignini, fin lobé, ininan. Ce qui voulait dire à peu près, si tu ne cherches pas quelque chose, c'est quelque chose qui te cherche. Dignement, je voulus continuer ma route, mais les 2 compères m'interpellèrent.
Comme tu es idiot, tu ne sais pas qu'aujourd'hui, les tacos comme toi seront secoués? Ce sont les brimades, mon vieux, et si tu n'as personne pour te protéger, ton compte est bon. Comme tu nous parais gentil, nous allons te protéger.
Celui qui parlait jeta un clin d'œil à l'autre qui sourit. Cependant, je leur fis confiance. Je leur fis confiance poussée par je ne sais quel besoin de croire en l'homme tout en m'attendant à sa trahison. À 7h30, la cour du collège était pleine d'élèves. Il y régnait un tumulte confus où se décelaient des rires, des cris sauvages, des pleurs même. Les anciens collégiens, les élèves des classes de 5e, 4e et 3e, ceux qu'on appelait Laz, je ne sais pourquoi, tourmentait les nouveaux de 6e. On me dit qu'il était temps de partir. Humblement, je marchais entre mes 2 protecteurs. Moi qui à l'école primaire me croyais déjà grand, moi qui prenais la place du maître quand il était absent, j'étais devenu un veau qu'il fallait protéger. Je sentis toute ma dignité froissée. Les Lazes s'empressaient autour de moi comme une meute de chiens autour d'une biche. Ils demandaient, alors c'est un taco? Il est bien grand. Ils essayaient de me tirer les oreilles ou de me donner quelques coups de poing sur la tête. Mais mes deux amis providentiels me protégeaient. Nous étions maintenant au beau milieu de la cour. La multitude hurlante et mouvante nous entourait. Et puis, je ne sus pas comment cela se fit. Mes deux protecteurs avaient disparu. Et je compris trop tard qu'ils m'avaient délibérément conduit en enfer. En un instant, j'eus toute la meute des Lazes déchaînée sur moi. Les uns me frappaient du poing sur la tête, le dos. Certains me frottaient les oreilles avec de vieilles brosses à poils rigides. D'autres me jetaient du sable sur la tête, la figure. Faiblement, j'essayais de me débattre, mais ces abeilles bourdonnantes me piquaient de tous les côtés. Partout alentour, c'étaient les mêmes vociférations, les mêmes sons se terminant toujours par « Oh !» Bosro, taco, vo, taro, capo, zéro. Mon Dieu, ma situation m'était tout d'abord humiliante avant d'être douloureuse. Je bouillais de rage. Je crois que si j'avais disposé alors d'une arme, j'aurais fait un malheur. Tout silencieux, je prie Dieu à témoin de cette injustice dont j'étais victime. Enfin, un élève de troisième vint à mon secours et m'enleva des mains de mes bourreaux. Cependant, j'eus à subir d'autres supplices, mais moins graves. Cette fois-ci, je devais me mettre à genoux quand un Laz me disait de piquer. Je devais aussi répéter cette phrase idiote. La bosronomie est une maladie qui attaque les élèves de 6e durant le premier trimestre de l'année scolaire. Il fallait défiler aussi tout seul en chantant « Je suis un taco, ma valeur est zéro, les Laz sont en diamant et moi je suis en fumier. » Après la marche, c'était la danse, et les Lazes me convertirent sur le champ en chanteur et danseur. La lièvre et le tortue y sont pariés, demain nous verra celui qui gagneront. Oui, c'était le lot du Bosro, de se plier aux caprices du Laz, comme c'est le lot du faible de se plier aux volontés d'un plus fort. Le Bosro, c'était le nouveau venu, celui qu'il fallait humilier pour mettre en évidence sa nullité. Comme tous les gens humbles, je détestais l'humiliation. J'avais trop de respect pour autrui pour tolérer qu'on s'amusât à m'humilier. Les supplices prirent fin quand le premier coup de gong sonna et que le principal du collège arriva. Je souriais dans mon lit en pensant à cette rentrée-là. 3 années s'étaient déjà écoulées. Je n'avais jamais payé ma dette. Je n'avais jamais participé au brimade. J'avais au contraire protégé chaque fois les élèves de 6e. Je m'endormis sur ces souvenirs. Le lendemain matin, je me réveillai de bonne heure. Le matin était frais et le léger brouillard au ras du sol laissait prévoir une journée ensoleillée. Après avoir déjeuné, je partis chez mes deux camarades Koula et Bazier. Je passai d'abord chez Koula. Il était prêt pour aller à l'école. Il n'avait pas changé avec ses gestes toujours mesurés, la parole toujours pesée et le verbe aisé. Nous fûmes très heureux de nous revoir. Nous nous rendîmes chez Bazier. C'est certain que notre ami n'a pas encore fini de faire sa toilette.
Je dirais même plus, il n'a pas encore.
Je me mis à rire. Koula avait la manie d'être un grand imitateur. Il était un composé de sérieux et de gaieté. Cette complexité de son caractère faisait de lui un être original. Et quand il parlait, il employait volontiers des citations de Tintin aussi bien que celles de Hugo. Nous trouvâmes en effet Bazier en train de faire sa toilette. C'était son propre d'être toujours en retard. Ce manque de ponctualité était chez Bazier le seul trait de caractère qui m'exaspérait. Quand il eut fini, nous prîmes le chemin du collège en bavardant joyeusement. Nous retrouvâmes cette école que nous aimions tant. L'établissement se composait de plusieurs bâtiments dont le plus important constituait les salles de classe. Celui-là était très élégant, avec ses murs peints en blanc, ses volets nouvellement vernis en jaune et son toit de tuiles grises. Derrière la bâtisse principale se trouvait la seule classe détachée, la salle des sciences naturelles près de laquelle on avait construit une petite bicoque pour les gardiens de l'établissement. Non loin, de l'autre côté, Il y avait les cuisines et le réfectoire derrière lequel se dressaient les bureaux du principal et des surveillants. Au-delà, c'était le terrain de sport. La cour du collège était sableuse et avait de belles pelouses plantées de grands manguiers feuillus et de cocotiers toujours bien taillés. Le collège souriait aux rayons dorés du soleil matinal et semblait se moquer des gossereaux qui frémissaient une fois de plus sous le joug de l'âge. Partout, les élèves étaient très excités. Les lazes se montraient impitoyables et maltraitaient même les jeunes filles.
C'est intolérable. Défendons au moins les filles.
Et nous voilà partis, débarrassant les demoiselles des garnements qui les accablaient de grossièreté. Nous étions bien célèbres et partout notre présence imposait l'ordre. Tout à coup, j'entendis des clameurs plus fortes sous un cocotier. Je me dirigeais vers cet endroit. Là, je vis une jeune fille dignement arrêtée que les lazes maltraitaient. Elle ne disait rien quand on lui tirait ses tresses. On l'eût dite insensible, sans la petite moue dédaigneuse qu'elle faisait à ses bourreaux. Je m'approchai et les élèves de 5e et 4e cessèrent leur brutalité. Tranquillement, je pris la main de la fille et lui dis « Viens, je vais te protéger. » D'un coup brusque, elle arracha son poignet de ma main et j'eus tout juste le temps d'éviter la gifle qu'elle m'envoyait sur la joue. Cette curieuse réaction m'étonna. Et je me dis que cette fille-là était trop orgueilleuse. Or, le but des brimades était d'apprendre aux nouveaux élèves à respecter les anciens et surtout à contenir leur propre orgueil. Alors, je pris la résolution soudaine de faire ce que je n'avais jamais osé. Je voulus participer aux brimades en humiliant cette fille. Pique la vache! Pique! Pique la vache! Elle ne bougea pas. Veux-tu piquer, oui? Elle était là, comme sourde. Ses yeux clairs me jetaient des dards de mépris et je me sentais ridicule. « Est-ce que tu vas piquer, espèce de vache ?» Les élèves autour de nous s'étaient tus et observaient la scène avec intérêt. Et je me sentais humilié par la dignité de cette fille si sûre d'elle. Et comme elle ne bougeait toujours pas, je la saisis par les épaules et voulus l'obliger à s'agenouiller. Mais elle se débattait comme une furie. Ce fut sur ces entrefaites que Bazier arriva.
Le principal arrive. Hé, hey, mais que fais-tu, Ebin?
Je lâchai la jeune fille. Et avant de tourner les talons, je lui jetai un coup d'œil qui était un défi. J'ai rencontré son regard calme. Je crois que ce fut seulement à cet instant que j'ai remarqué sa grande beauté. Petit à petit, on oubliait les congés et on se replongeait dans les études. Qu'est-ce que le travail représentait au juste pour moi? Beaucoup. À un certain moment, j'en fis même le but de mon existence. Mes parents m'avaient toujours dit que le travail, même s'il n'arrive pas à sortir l'homme de la misère, lui garantit sa dignité. Et depuis mon plus jeune âge, je faisais consciencieusement les travaux qu'on me confiait. J'avais fini par placer le travail au-dessus de tout. Je vénérais le travail, peut-être simplement parce que, n'y ayant jamais vu de la servitude, j'en avais au contraire fait un jeu. Oui, travailler, je l'ai toujours considéré comme jouer avec sérieux. Je ne me suis jamais tué à la tâche en pensant à ma situation future ni pour mériter les félicitations de mes professeurs. J'ai simplement travaillé pour m'amuser et la satisfaction de savoir ma tâche impeccable suffisait à récompenser mes efforts. Ainsi, m'étais-je fait remarquer au collège comme un élève sérieux et travailleur. Et chaque année, je rentrais chez moi avec mon prix d'excellence que je montrais à ma mère qui disait
« Mon fils, je dis, on ne peut donc pas vous récompenser avec de l'argent. Ces messieurs-là, hein, ils ne pensent jamais à la souffrance des parents. Oh. »
Cette année-là aussi, je travaillais soigneusement. Je m'appliquais à faire mes devoirs et je lisais beaucoup. Cependant, je ne négligeais pas les loisirs. Mais qu'étaient les loisirs dans une vie où le travail même était une détente? J'étais assez bon athlète et je pratiquais presque tous les sports appris au collège. Et puis, il y avait Monique. Cette jeune fille fréquentait un collège à Abidjan où elle suivait la classe de 4e. Chaque samedi soir, elle venait chez son père à Bassam. Alors, Monique et moi, nous nous voyions. Nous pouvions jouer ensemble sans éveiller les soupçons de notre entourage. Tout le monde me prenait pour un garçon sérieux. Et nous nous voyions quand nous le voulions. En vérité, nos jeux, nos regards d'enfants heureux étaient bien innocents. Nous ne parlions jamais d'amour. Quelquefois cependant, je remarquais que les yeux de Monique brillaient étrangement. Et à ces instants, je ressentais une certaine gêne dont je ne compris la signification que plus tard. Monique me témoignait une grande admiration. Pour elle, j'étais un garçon extraordinaire et elle était le témoin de ma force. Le moindre de mes succès était pour elle un véritable espoir. Chaque trimestre, je lui écrivais pour lui dire que j'étais encore premier de ma classe. Et ses visites qui suivaient ses lettres étaient particulières. Elle venait comme d'habitude le samedi soir. Elle attendait que nous fussions seuls tous les deux. Elle vainquait alors sa timidité et doucement posait ses lèvres tremblantes et tièdes sur ma joue. Et elle murmurait.
« Tu sais, je suis fière de toi. »
Oh, ce baiser simple, si chaste. Je crois que je l'ai désiré plus que les prix et plus que les félicitations de mes professeurs. Quelquefois même, Monique faisait le ménage pour moi. Elle balayait ma chambre, rangeait mes livres, me repassait mon linge en même temps que celui de son père. Quand elle avait fini, je lui prenais ses petites mains et je lui disais affectueusement « Merci, ma petite femme ». J'avais toujours remarqué que cette innocente phrase mettait Monique mal à l'aise. Pourquoi donc baissais-tu tristement la tête? Pourquoi tes mains tièdes tremblaient-elles? Peut-être savais-tu déjà que je ne t'aimais pas, du moins pas autant que toi tu m'aimais. Comme moi, Monique aimait la nature, la lecture et le cinéma. Je l'emmenais donc voir un film de temps en temps et un jour, il faillit nous arriver un malheur. La salle du cinéma impérial était découverte et malheureusement il s'était mis à pleuvoir. Des éclairs zigzaguaient et déchiraient l'obscurité. Soudain, un éclair plus fort que les autres illumina le ciel pendant une fraction de seconde. Aussitôt suivi un formidable grondement de tonnerre et puis tout devint obscur. Le film était coupé. Alors, la panique s'empara des spectateurs. Les femmes et les enfants hurlaient. Les hommes furent les premiers à se ruer vers les deux sorties. Je sautai sur pied et au même moment, je reçus Monique dans mes bras. Son corps grelottait de froid. Elle s'accrochait à moi comme le naufragé à sa bouée. Je ne savais comment sortir de cette situation difficile. Déjà la foule avait obstrué les deux sorties et dedans on se bousculait, on se marchait dessus. Il fallait sortir par n'importe quel moyen. Mais moi, avec Monique dans les bras, je n'avais qu'à attendre la mort. Et pour la première fois, je pensais que je pouvais mourir à mon âge et j'eus peur. J'ai eu surtout peur de m'effacer ainsi, sans avoir réalisé le plus simple de mes rêves. Je n'étais pas prêt pour la mort. Heureusement, tout se calma. On sut que le coup de tonnerre avait coïncidé avec un court-circuit, mais que cela n'était pas dangereux. La salle se vida et moi, tout en marchant, j'essayais de réconforter Monique, toujours frissonnante. Je plaisantais si bien que j'arrivais à la faire sourire.
J'ai eu peur.
Moi aussi. Elle me regarda affectueusement.
Tu sais, j'aime ta franchise, Eva. Il y a des gens qui prétendent ne pas aimer la vie.
J'aime la vie, Monique.
J'en suis heureuse, Eva. Vois-tu, quelquefois, je décèle sur ton visage quelque chose de mystérieux qui, à la fois, me fascine et me fait peur.
J'aime la vie. Une vie dont je rêve et que j'espère réaliser. Rassure-toi. Je suis un rêveur conscient. Chez moi, le rêve côtoie la réalité et corrige ses côtés négatifs. En fait, je ne rêve pas. Je vois seulement la vie autrement.
Comme tu es étrange, eh ben.
Le cinéma, la lecture, les promenades dans la nature, c'était nos loisirs communs. Rarement nous dansions. La musique, je l'aimais, mais ma timidité m'avait empêché d'apprendre à danser. Je crois que mon premier pas de danse, je le fis à un bal de fin d'année. Dieu, que j'étais raide et ridicule. Je croyais tous les yeux fixés sur moi et cela me paralysait. J'avais honte de ma gaucherie. Pourtant, Monique m'entraînait doucement. Tu sais, Monique, je ne suis pas un danseur étoile. Je n'avais pas besoin de le dire. Elle s'en rendait bien compte, la pauvre fille, tant je lui marchais sur les pieds.
Cela ne fait rien, Eben. Tu apprendras très vite, j'en suis certaine.
J'aimerais danser au sida ou au balafon, tu sais. Elle me sourit, se rapprocha de moi et je sentis le doux contact de son corps.
Eben, dis-moi, tu m'emmèneras un jour au village et nous danserons le sida, n'est-ce pas?
Oui, tu verras comme je suis à l'aise au village. Là-bas, je suis dans mon élément. Je crois vraiment que je suis un petit sauvage, ne pouvant être à l'aise que dans le milieu rustique qui m'a vu naître. Ce que je ressentais auprès de Monique, c'était un étonnant bien-être, une paix dans l'âme et le corps qui m'était inexplicable. Et je sentais que Monique était de ces rares jeunes filles qui sont pour l'homme un complément, un soutien. Je m'étais souvent demandé pourquoi j'étais si bien près d'elle. Je me rendis compte alors qu'outre l'admiration qu'elle me témoignait, il y avait aussi chez Monique un côté maternel à mon égard. Quand je ressentais la moindre fatigue, le moindre malaise, cela la mettait dans un de ces états où l'on voit une mère près de son enfant malade. Dieu, elle devenait triste, mais triste, et sa voix s'imprégnait d'une grande angoisse. Elle me gavait de comprimés médicaux, me comblait de soins et me faisait promettre n'importe quoi, de ne pas jouer au ballon, de ne pas veiller, de ne pas fournir de grands efforts. Une fois que je venais de me rétablir du paludisme, je dis à Monique, « J'ai envie d'aller au cinéma ce soir, puisque nous sommes samedi. »
« Ah non, Eben, repose-toi. Tu es fatigué. Quand je suis à Abidjan, tu ne prends pas soin de toi et tu tombes malade. »
Dis donc, Monique, me prends-tu pour un gamin et toi te prends-tu pour maman? Elle se mordit les lèvres et instantanément, les larmes coulèrent sur ses joues. Je l'avais blessée alors que je voulais simplement plaisanter. J'étais confus. Au fond, cela me faisait plaisir que Monique me dorlota. Pardon, Monique, je ne voulais pas dire quelque chose de méchant. Tu sais, tu comptes dans ma vie autant que ma mère. Ne pleure plus, s'il te plaît. Elle tourna vers moi son visage baigné de larmes. Son œil humide brillait, ses lèvres frémissaient.
Tu dis vrai, Eben.
Je m'approchai d'elle. Je sortis ma pochette et me mis à essuyer ses larmes. Bien sûr que je dis vrai, Monique. Elle respira profondément et blottit sa tête contre mon épaule.
Je ne pleurerai plus.
Je suis très sincère avec toi, Monique. Je ne peux me permettre de te mentir, puisque tu es ma petite sœur. Elle s'écarta brusquement de moi. Une expression bizarre traversa furtivement son visage. Sur le champ, cette réaction ne m'a pas intrigué. Plus tard seulement, elle m'a éclairé sur les sentiments de Monique à mon égard. Outre Monique, j'avais peu d'amis. Mon cercle d'amis était fort réduit. J'étais assez renfermé et il m'était difficile de m'habituer à quelqu'un. Au collège, je me mêlais fort peu aux discussions animées sur le football ou sur quelques autres sujets que je trouvais banal. En l'absence de Koula et de Bazier, j'étais isolé au milieu des autres élèves. Je ne m'amusais qu'avec Koula et Bazier et puis, à l'occasion, avec Monique. Pourtant, j'aimais mon existence, j'aimais ma tranquillité. Cette tranquillité, je crois que j'ai commencé à la perdre à partir du jour où je compris que Muriel m'intéressait. Muriel, c'était la jeune fille avec qui j'avais eu une scène ridicule le jour de la rentrée. Muriel était une jolie fille, mais ce n'était pas seulement sa beauté qui m'impressionnait. Je crois surtout que je sentais chez elle quelque chose que j'avais rêvé chez ma sylphide. Pourrais-je jamais dire avec certitude ce qui me plaisait en Muriel? Était-ce ce port à la fois fier presque impertinent et timide, ou cette démarche sûre et élégante, toujours est-il que j'étais irrésistiblement attiré vers elle. Pourtant, je savais Muriel coquette, légère et insouciante, et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi sa seule vue me troublait au point de me rendre stupide. Je pensais être sérieusement amoureux de Muriel. Pour moi, l'amour que l'on porte à une fille dépend de certaines circonstances anodines. On pourrait aimer n'importe quelle fille, à condition que les circonstances s'en mêlent. Car, qu'est-ce qui nous attire? Un sourire? Un simple battement de paupières? L'expression angoissée du visage? Une parole? Enfin, un simple trait nous fixe et nous détermine. Muriel, j'avais fini par le savoir, était la fille d'un député. Elle était venue fréquenter le collège de Bassam sous la tutelle d'un oncle, homme également puissant. Tout comme moi, Muriel suivait la classe de troisième, ce qui me surprit car le jour de la rentrée et pendant les brimades, nous l'avions tous prise pour une élève de sixième. Depuis la rentrée, je ne lui parlais pour ainsi dire pas, et quand je m'aperçus que je l'aimais, je ne sus comment faire pour gagner son amitié. J'étais timide et la pensée de parler à Muriel me paralysait. Pourtant, auparavant, dans mes rêves, après avoir entretenu ma sylphide, je trouvais toujours le moyen de l'aborder. Oh, ils étaient faciles, ces rendez-vous avec l'image de la femme irréelle. Dans des jardins fleuris, plantés d'arbres aux feuilles dorées, je marchais doucement, enivré par l'atmosphère parfumée et le son d'une musique douce et légère. Je la trouvais toujours dans ses vêtements de gaze blanche, gracieusement assise sur un banc. Elle m'accueillait avec un sourire qui m'emplissait de bonheur. Près d'elle, je m'asseyais. Je la frôlais à peine de peur de la faire s'envoler. Nous ne parlions jamais. Nous communiquions par nos pensées et nous nous sourions langoureusement. Nous étions seuls dans notre paradis. Notre amour n'avait pas besoin de témoins. Souvent j'avais fait ce rêve, mais maintenant je n'avais plus à rêver. J'aimais et Muriel incarnait la femme que mon imagination avait souvent créée. Il me fallait dès lors lui faire comprendre quelle place elle commençait à prendre dans mon cœur. Mais comment arriver à parler sérieusement à Muriel? Comment lui déclarer mon amour? Seul, je prenais des résolutions et j'essayais d'imaginer la réponse qu'elle me ferait. Je me disais qu'à coup sûr, cette réponse serait insolente, car d'abord ma première rencontre avec Muriel avait été incorrecte. Ensuite, cette fille ne me semblait pas très sérieuse au sens que je donnais à ce mot. À force d'hésiter, je finis par croire l'entreprise irréalisable. Muriel devint alors une terrible hantise pour moi. J'aimais à la regarder et je l'imaginais dans mes bras. Mais Muriel avait un tel ascendant sur moi que je n'osais pas l'aborder. Pourtant, à un certain moment, quand je rencontrais les yeux de Muriel, je les sentais interrogateurs. Il me semblait vraiment que la jeune fille voulait que je lui parle. On aurait dit qu'elle provoquait des occasions pour que nous nous rencontrions. Malgré tout, je l'évitais. Je l'évitais car j'étais arrivé à me demander dans quelle mesure cet amour était possible. Un autre obstacle m'a paru, le plus important peut-être. Muriel n'était pas de la même classe sociale que moi. Elle était de la bourgeoisie cossue, et moi j'étais un enfant du peuple, un enfant pauvre. Comment pouvais-je envisager l'existence aux côtés d'une jeune fille qui arrivait au collège en Mercedes et dont les robes pouvaient coûter autant d'argent que ma famille en gagnait au bout d'un an? Je me demandais ce que je pourrais lui donner. Je savais que ce ne pouvait être que mon amour uniquement. Et je doutais fort qu'elle pût se contenter de cet amour. Aimant pour la première fois, je croyais cela la plus importante chose de ma vie et je souffrais de ne pouvoir arriver à ma fin. La nuit, dans mon lit, j'imaginais tous les plans possibles pour parler à Muriel. Devant elle, je perdais tout contrôle de moi-même. Je devenais stupide et j'eusse été incapable de lui déclarer mon amour si l'occasion m'en avait été offerte. Et je souffrais de cet état de choses. Je souffrais de ma lâcheté. Ainsi, la réflexion fait de nous des lâches. Shakespeare a raison. C'était à force d'avoir trop réfléchi que j'en étais arrivé là. Et tout cela se ressentait dans mon travail. Sans m'en rendre compte, j'étais devenu négligent. Ah oui, la vie m'avait ouvert cette voie de l'amour et des peines. Koula et Bazier essayèrent de m'aider.
Mon vieux, qu'est-ce qui se passe? Tu as complètement changé. Tu es devenu triste et tu travailles mal. Je n'arrive pas à comprendre que tu aies d'aussi mauvaises notes.
Bazier tournait mes feuilles d'interrogation écrites où étaient marquées des notes médiocres et les appréciations les moins flatteuses.
Mathématiques, 4 sur 20. Vous ne faites plus rien en classe.
Oh, je n'ai jamais aimé les mathématiques.
Ce n'est pas tout. Orthographe, 2 sur 20. Élève qui depuis un certain temps ne fait pas assez attention.
Tu as toujours été le premier en orthographe. Alors, qu'est-ce qui te tourmente? Nous savons que tu as des soucis. Confie-toi, voyons.
Je les regardais et j'eus honte de leur avouer mon secret. J'aime une fille.
Ah, et cela t'empêche de travailler?
Il y avait dans la voix de Bazier comme du reproche, où se mêlait un peu d'ironie. On meurt même d'amour, tu sais.
Ce sont des idées que tu as encore prises dans tes interminables lectures. Les livres, c'est toujours la même histoire. Un garçon qui aime une fille, et patati, et patata. Ça sert seulement à aiguiser la sensibilité et à faire souffrir. C'est pourquoi je ne lis jamais.
Non, non, vous ne pouvez pas comprendre. Je l'aime comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Je voudrais la prendre dans mes bras et sentir la tiédeur de son corps au contact du mien. Oh, j'ai envie de lui dire des choses qu'on ne lui a jamais dites. Mais quand je pense que jamais cela ne se réalisera, je ne peux plus travailler. Je ne peux être que malheureux.
Tu es stupide, voyons. Quel mal y a-t-il à aimer? Tu l'aimes? Prends-la. Vois-tu, nous ne sommes plus au temps où on envoyait des billets doux à la bien-aimée. Il faut un peu de cran. Voilà tout. Aborde-la carrément et dis-lui ton amour.
J'admirais ce point de caractère de Bazier. Il savait ce qu'il voulait et c'était un garçon extrêmement tenace. Il était sans doute le plus mûr de nous trois. Il semblait être en rapport direct avec la vie et ses problèmes.
Aborde-la carrément et dis-lui ton amour.
Ce n'est pas si facile, Bazier.
Sais-tu, eh bien, que tu es décevant quelquefois? Il faut que tu saches que la réalité est bien différente du rêve. Et être homme, c'est arriver à résoudre ses problèmes ou tout au moins les affronter courageusement. Au fait, quelle est cette divine personne qui hante ton esprit jour et nuit?
Muriel. J'ai suspecté chez mes amis un air d'étonnement et de déception. Eux aussi connaissaient Muriel. Ils connaissaient sa désinvolture, son insolence vis-à-vis des garçons, ses grands airs de fille aux parents aisés. Koula prit sa voix de philosophe.
Eh bien, je crois sincèrement que cette fille n'est pas faite pour des garçons comme nous.
J'ai bien écouté mes amis, surtout la dernière tirade de Koula. Mais j'étais persuadé que rien ne pouvait me faire oublier Muriel. Cependant, avec l'aide de mes amis, je me remis au travail. Je compris que dans ma pénible situation, le travail pouvait être une consolation. Alors, les professeurs reconnurent leur ébinto des années précédentes. La vie redevint à peu près comme autrefois. Le samedi soir, quand Monique n'était pas là, j'allais me promener en compagnie de Bazier et de Koula. Quelquefois, nous empruntions des vélos et faisions d'assez longues promenades. Ce fut ainsi que Koula et moi connûmes le village d'Azureti. Ce soir-là, Bazier était absent. J'avais réussi à avoir une vieille bicyclette et j'avais remorqué Koula. Le soir avait des couleurs éclatantes. La brise venant de la mer était douce et caressante. Nous roulions lentement quand derrière moi, Koula s'écria soudain.
Arrête ton vieux taco.
Pourquoi donc?
J'ai vu un billet de 100 francs. Tu as roulé dessus sans le voir.
Quelle chance! Mais j'ai un oncle qui affirme que c'est mauvais de ramasser de l'argent, car on en perd toujours plus qu'on en a ramassé.
Tais-toi, oiseau de mauvais augure. Dis donc, nous pouvons nous offrir 2 billets de cinéma ce soir.
Bon, c'est ce que je me disais moi aussi. Nous descendîmes de la bicyclette juste après avoir dépassé le cimetière d'Azuretti. Nous la déposâmes dans une baraque et marchâmes sur la plage. Nous nous amusions à poursuivre les petits crabes que les vagues rejetaient sur le sable. Un moment, Koula s'aventura trop loin et la vague le surprit quand elle déferla. Il fut copieusement mouillé aux jambes.
Je sécherai rapidement.
Pourtant, nous avons continué notre promenade. Tout à coup, j'entendis Koula jurer derrière moi. Et comme je lui demandais ce qui se passait,
j'ai égaré la clé de ma porte. Je vais être obligé d'acheter une nouvelle serrure.
Ce sont les 100 francs ramassés.
Tais-toi, superstitieux.
Superstitieux, non, mais noir. Je crois énormément à notre passé, nos coutumes. Vois-tu, Koula, ici en ville, je crois être enfermé dans un monde qui n'est pas le mien. Je veux vivre comme quand j'étais petit. Je veux courir, pieds et torses nus, comme un petit animal, par les sentiers caillouteux, sans me soucier de cette tourbillonnante vie de civilisation.
Réveille-toi, Hébert. Ne rêve pas, vis.
Comment vivre quand l'existence ne répond pas à mon idéal? Au fur et à mesure que je grandis, je trouve les choses toutes différentes de ce que j'avais cru. On a presque réussi à me convaincre que j'ai pris la vie trop au sérieux et qu'il ne le fallait pas. On a peut-être raison. Je me fais des soucis pour des choses qui émeuvent si peu de gens. Par exemple, comment concevoir que la nature profonde du nègre n'est plus qu'une illusion à laquelle ne croient guère que quelques romantiques? Je sais, l'heure n'est plus loin où je vais renier ma nature, non par volonté, mais parce que la civilisation des Blancs me l'aura fait oublier.
Vouloir conserver sa négritude, j'entends par là le propre du nègre, c'est-à-dire sa manière particulière de vivre, d'être, est pratiquement impossible. Il faut donc prendre la vie actuelle comme elle est, essayer de suivre son rythme.
Au fait, c'est là qu'interviennent les problèmes. Car il faut surtout savoir s'adapter à la vie que la civilisation nous impose. Et mon cas est dramatique, parce que ma nature ne me permet pas de m'adapter à la vie que propose mon temps, alors que déjà, malgré moi, la tradition m'échappe.
Eh bien, il faut guérir.
Et si ma maladie est incurable, que faire?
Elle est curable. Cela sera grâce à l'effort que tu auras fait pour te conformer à notre nouvelle condition d'être.
J'ai peur de cette vie de vertige. Je crois qu'elle m'engloutira dès que j'y aurai mis les pieds.
Il te suffira d'agir comme tout le monde. Braver la vie, connaître non seulement la douceur, la tolérance, la pitié, la justice, mais aussi la violence, l'orgueil, la méchanceté et même l'injustice. À notre époque, l'on confond l'humilité et le respect avec la peur. Et j'arrive à penser que celui qui n'est pas capable de haïr autant qu'il peut aimer n'est pas un homme.
Peut-être as-tu raison, mais vois-tu, j'avais espéré tout le contraire pour le monde. Tout en bavardant, nous avions continué notre promenade et étions arrivés à Azuretti. C'était un tout petit village avec de vieilles paillotes en bambou, quelques murs lézardés de cases en briques. Azuretti m'est apparu comme un village mort, bercé dans sa léthargie cadavérique par le bruit puissant des vagues qui annonçaient la barre et qui était un étrange air mélancolique. Cet air puissant et violent, mélancolique par son refrain continuel, je l'avais longtemps écouté et j'en étais comme étourdi. Plus tard, comme la nuit tombait, nous retournâmes à Bassan. Un trimestre était passé. Je n'avais pas oublié Muriel. J'avais noyé mon chagrin dans les études. Je fus néanmoins classé 3e de ma classe. C'était presque un désastre. Monique me consola.
Je suis certaine qu'au trimestre prochain, tu seras premier.
Avant de partir en vacances de Noël, il fallait élire le bureau d'autodiscipline du collège. Les élections eurent lieu dans une salle de classe, un soir vers 18h. Je ne suivais pas le déroulement de ces élections et pour cause, le sort avait voulu que je me retrouve assis auprès de Muriel. Elle-même s'était mise à côté de moi. L'avait-elle fait délibérément? Je n'osais pas le croire. En tout cas, de temps en temps, elle me jetait un coup d'œil, comme pour m'encourager à dire ce que mes yeux ne pouvaient taire. Oh non, Je n'ai pas su résister à ce regard, à la fois candide et malicieux. Quelle force alors a enhardi mon cœur et a guidé ma main? Je ne saurais le dire. Toujours est-il que je pris une feuille de papier et écrivis. Je voudrais te parler après la réunion. Elle prit le billet, le parcourut et me sourit imperceptiblement. Mon cœur fit un bond étrange. La réunion se termina à 19h. Tout le monde était pressé de rentrer, si bien que Muriel et moi pûmes être libres de nous entretenir. Quand je vis la jeune fille seule avec moi, je fus plongé dans l'embarras. Je ne savais pas par où il fallait commencer. Mon cœur battait très fort et je faisais un grand effort pour garder un air naturel. Il y eut un court instant de silence. Elle demeurait là, son cartable dans ses mains, les yeux légèrement baissés vers le sol. Muriel, le reste de la phrase s'étrangla dans ma gorge sèche. Tu me pardonnes de t'avoir brutalisé le jour de la rentrée?
Oui, je t'avais déjà pardonné.
Depuis ce jour, j'ai beaucoup pensé à toi. Et j'ai voulu te dire que non, je ne pouvais plus continuer. Elle me fixait de ses yeux interrogateurs et ses lèvres qui frémissaient imperceptiblement m'encourageaient à parler. Mais mon cœur battait à se rompre et la crainte de paraître ridicule devant Muriel m'empêchait de déclamer le beau discours que j'avais maintes fois récité tout seul.
Je suis déjà ton ami, Ebinto.
Je tournai vers elle un regard de reconnaissance que je ne saurais peindre. Juste à cet instant, une grosse Mercedes vint s'arrêter sous les cocotiers.
C'est mon oncle qui m'envoie chercher.
Elle était embarrassée à son tour. Elle ne savait s'il fallait m'inviter à monter avec elle dans la voiture ou simplement me dire au revoir. Je l'aidai. Bon, nous sommes amis, Muriel. Le gardien, Gaston, m'a demandé de lui écrire une lettre. Je m'en vais dans sa piole. Je te souhaite de passer une bonne nuit. Elle prit la main que je lui tendais.
Bonne nuit et bientôt.
Elle partit. La Mercedes démarra dans la nuit. Et brusquement, je me jetai sur un banc. Je sus que Muriel, malgré elle, ne pourrait jamais me témoigner un profond amour. Cette fille que j'aimais tant aurait toujours honte de moi dans sa société. Mes hésitations à aborder la jeune fille m'étaient apparues quelques rares fois comme un complexe ridicule. Elles m'apparurent ce soir-là comme une prudence bien fondée. Je me demandais ce que je pourrais offrir à Muriel. Jamais. Je ne pourrais même lui faire mener le genre de vie qu'elle menait chez ses parents. Est-il des femmes qui sachent se contenter uniquement de l'amour, de la compréhension et de l'esprit de ceux qui les aiment? J'en avais rêvé, mais je craignais que Muriel ne fût pas de celle-là. Aucune femme n'est capable de cela. Monique, cependant, Monique. Je cherchais maintenant à l'éviter le plus possible. Je voulais lui épargner les désillusions. Avait-elle remarqué mon changement? Elle n'en laissait rien paraître. Toujours affectueuse, elle continuait à faire de moi une idole et obéissait avec joie à mon moindre désir. Cependant, je la sentais souvent soucieuse et j'essayais alors de ramener le sourire sur ses lèvres. Et tout en disant quelque chose pour consoler Monique, je pensais à Muriel.
C'était Plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre. Votre rendez-vous hebdomadaire consacré au livre et à la lecture.
Une idée originale de Aoussi Potin. Montage technique et bruitage, Antoine Coissy.